Maurice Renard, Le fantôme du Cormoran. Une année, me dit Jérôme, quand j'étais commissaire de police, j'avais déniché pour y passer les vacances, en famille, la villa rêvée. Oh, ce n'était pas un princier, une petite maison bien simple, bâtie dans les pins au bord de la mer. Du côté de la Tremblade. Oh, depuis l'endroit, c'est peuplé, même surpeuplé. Mais à l'époque, il n'y avait là que trois habitations, et le village était à plus d'un kilomètre. Ces trois habitations, perdues dans la masse verdoyante, s'échelonnaient sur une ligne parallèle à la bordure du bois, qui était elle-même, suivant le rivage dont d'une dune vaste le séparait. En venant de l'est, on rencontrait d'abord Mabicoque, puis, 100 mètres plus loin, une autre, analogue, appartenant au même propriétaire, et plus loin encore, la troisième. Celle-là, construite depuis très longtemps, plus solidement et plus richement que ses voisines, avait bien entendu un nom. Elle s'appelait le Cormoran. La mienne, le Courlis, et celle du milieu, la mouette. Toute une volière, comme vous voyez. Un calme, une tranquillité. C'était délicieux. Cela faisait mon bonheur et celui de mes enfants, qui jouaient toute la journée sur la plage avec les enfants Falsbourg. Ribambelle de gosses, issus tous des époux Felsbourg, locataires du Courlis. Ma femme trouvait seulement que le soir, l'endroit était bien solitaire, et elle n'aimait pas entendre au crépuscule le cri des goélands qui passaient au-dessus de la pinède en ramant de leurs grandes ailes. Et puis des gens du village lui avaient dit que le Cormoran n'était autre qu'une maison hantée, ou plutôt qui avait été hantée autrefois. Mais naturellement, ça ne pouvait contribuer à la rassurer. Ce Cormoran n'avait pourtant rien de sinistre, bien que son aspect fût à vrai dire moins riant que celui de la mouette et du courlis. Et on ne pouvait imaginer personnage plus aimable, plus plaisant que monsieur et madame Petit-Lignon, rentiers et qui logeaient là toute l'année et possédaient le courlis et la mouette. Nous avions fait connaissance avec eux lors des arrangements préliminaires et ils nous étaient très sympathiques, ainsi que les époux Falsbourg. C'étaient deux braves conjoints bien réjouis que monsieur et madame Philippe, et chacun de nous avec plaisir à les rencontrer. D'autant qu'il faisait preuve de discrétion et qu'il prenait garde de respecter notre solitude. Le beau monsieur Bénivignon nous saluait toujours d'assez loin, avec beaucoup de civilité et un sourire largement épanoui, mais nous allions à lui volontiers. Et Salzbourg et moi, et nos femmes agissaient de même envers l'excellente Madame Petit-Pignon, qui semblait bien être la meilleure personne du monde. Ah, ah, ah! Sans postérité, il s'était retiré des affaires bien avant la vieillesse. Le cormoran et le terrain environnant leur avaient coûté d'ailleurs une somme modique à cause de l'histoire du fantôme. Histoire vague et ridicule, dans laquelle personne dans le pays n'était d'accord, que chacun racontait d'une façon différente, et dont M. Petit-Pignon faisait des gorges chaudes. Et ma femme m'assurait que Madame Petit-Pignon montrait moins d'incrédulité à l'égard du revenant. Mais personnellement, je ne le discernais pas, et je m'amusais à taquiner Madame Jérôme en l'accusant de prendre pour une réalité son propre désir de fantastique. Dis, Marie, avoue-le, tu voudrais bien que Madame Petit-Pignon ait peur du fantôme, hein? Méchant, tu as tort de te moquer de moi. Je suis certaine que Madame Petit-Pignon n'est pas rassurée. Jamais rien ne s'était produit entre les quatre murs du cormoran, qui put être imputé à des causes équivoques. On ne savait du reste pas du tout ce qui aurait pu se produire, tant la tradition était confuse et inconsistante. Et puis voilà. Une nuit, ma femme me réveilla brusquement en m'empoignant le bras. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Dis-je. Écoute, écoute. On n'entendait rien. La fenêtre était ouverte sur les volets clos. Le clair de lune aux fentes faisait sa lumière. Je n'entends rien, dis-je au bout d'un instant. Tu auras rêvé. Qu'est-ce que tu crois avoir entendu? Un cri, chuchota-t-elle en tremblant, un grand cri, affreux, étouffé, aigu. Oh, quelque chouette! Non, non, un cri de femme. À ce moment, je distinguais du bruit qui venait évidemment de la mouette, un bruit de porte. Serait-il arrivé quelque chose chez les Frasbourg, murmurai-je. Un enfant malade et qui aurait eu peur et faisait un cauchemar. Mais un cri de femme, je te dis, ce serait plutôt un cormoran. Allume. Mais pourquoi faire? Tu n'es pas raisonnable, Marie. Tu vois bien que tout est tranquille. Elle se leva sans répondre et alla silencieusement ouvrir les volets. La nuit, féerique, apparut. Et à côté, on entendait les enfants se retourner dans leur lit. On marche, dit ma femme. Alors, je pris le parti de me lever, non sans grogner un peu. Quelle heure est-il? Demandai-je. Il n'était que 11 heures. Mais tu sais bien, dis-je, que monsieur et madame Petit-Pignon veillent parfois jusqu'à minuit à jouer aux cartes ou bien elle tricote et lui il lit le journal. Et après, fit-elle. Après, eh bien, tu auras pris pour un cri, je ne sais quel bruit. Une maison où l'on veille, n'est jamais absolument silencieuse. Allons. Ah, jeta-t-elle sourdement, avec impassibilité, avec impatience. Mais pourquoi tu... Pourquoi? Parce que tu es dans la police. Tu n'entends jamais. Tu ne crois jamais que tes oreilles et tes yeux. J'allais bien rire. Mais alors j'entendis des pas précipités qui s'approchaient. Et je me mis à la fenêtre, moi aussi. J'avais passé un pantalon et chaussé des pantoufles. C'était Fulsbourg. Il me dit: Venez, monsieur Jérôme, venez vite, dit-il, entre haut et bas, d'une voix étouffée, essoufflée. Qu'y a-t-il? demandai-je. Fort tranquillement. Mais vous qui êtes commissaire, continua-t-il, ce qu'il y a? Madame Petit-Pignon est morte. Je l'ai trouvée dans leur salon. J'avais entendu un cri perçant, n'est-ce pas? Alors je suis allé voir. La porte du Cormoran n'était pas fermée à clé. Je descends. Et par habitude, je pris mon revolver. Nous hâtâmes, Felsbourg et moi, les aiguilles des pins crissaient sous nos semelles. Et petit pignon, disais-je, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Fassbourg avait laissé ouverte la porte du Cormoran. Il y avait de la lumière et le silence régnait. Madame Petit Pignon gisait tout de travers dans un grand fauteuil, son tricot par terre. Je l'étendis sur le tapis. Aucune blessure visible. Quelle mort étrange! répétait Felsbourg. Et où peut bien être son mari? Rassurez-vous, mon vieux, Madame Petit Pignon n'est pas du tout morte, évanouie seulement. Elle est des serviettes, de l'eau froide dans la cuisine, s'il vous plaît. Mon traitement énergique ranima bientôt ramena de belles couleurs pâles aux joues de la brave dame. Elle soupira. Allez chercher votre femme et la mienne, dis-je. Elles s'achèveront de ravigoter Madame Perpétit-Mignon. Je crois simplement qu'elle a éprouvé une frayeur peu commune. De ces épouvantes dont on meurt parfois. Et quand les femmes arrivèrent, j'avais déjà visité la villa et je m'étais rendu compte qu'elle ne contenait pas l'ombre de Monsieur Petit Pignon. Peu disposé à croire que le fantôme du Cormoran l'avait emporté dans l'au-delà, au regard terrifié de son épouse, je laissai celle-ci aux mains de ses infirmières et je sortis avec Filsbourg. Nous parcourûmes le sous-bois au hasard jusqu'à la mer. C'était marée basse. L'eau brillait au loin sous la lune. Regardez, regardez, le fantôme! S'exclama Felsbourg. Oh, vous rigolez, dis-je, avec une vulgarité intentionnelle. Pourtant, là-bas, sur les flots, une forme blanche, humaine, quelque chose comme un suaire. Courons, courons, Felsbourg. Il va se noyer. Diable! Heureusement, monsieur Petit Pignon n'avançait que lentement vers son trépas, et le bruit de la mer l'empêcha de nous entendre, clapotait derrière lui. Mais nous l'entendions gémir lamentablement. J'ai tué ma pauvre chère femme, je l'ai tuée, ma pauvre Adèle, ma pauvre bonne Adèle. Il était enveloppé d'un drap de lit. Soyez heureux, monsieur Petit Pignon. Madame Petit Pignon est en excellente santé. Elle vit, monsieur, elle vit. Et elle demande que vous pardonniez la mauvaise farce que vous lui avez faite si imprudemment. Oh, elle vit! Oh, merci, mon Dieu! Et la ronde face de M. Petit Pignon, verte encore de désespoir, s'alluma d'une ivresse progressive. C'est bien vrai, au moins. Vous ne me dites pas ça pour. Je vous jure, mon cher monsieur, que votre épouse n'aura aucune suite fâcheuse, votre farce n'en aura pas non plus. Mais ce n'était pas une plaisanterie, protesta le gémissant fantôme. Plaît-il, fis-je, inquiet de sa raison. Mais non! Mais non, c'était pour son bien. Diable, grommela Zérochef Falsbourg. Nous abordions sur le sable sec, ruisselant que nous étions depuis la ceinture. Et Monsieur Perpignan, Petit Pignon poursuivit. Madame Petit Pignon avait pris une larme de cognac. Or, elle peut pas boire d'alcool sans avoir le hoquet. Il y avait une heure que ce hoquet ne la quittait pas. Rien n'y faisait, ni la clé dans le dos, ni la respiration retenue, ni j'ai le hoquet, Dieu me l'a fait. Alors, en désespoir de cause, c'était si agaçant, vous savez. J'ai essayé le grand moyen, qu'on dit infaillible, une bonne frayeur. Les flots eux-mêmes riaient confusément.